C'est une des figures les plus étranges et les plus importantes de la Révolution. Et à cette époque où la parole a tant compté, un de ses plus grands orateurs. Dans les mois qui ont suivi la prise de la Bastille, quand il n'était pas encore question de République, Mirabeau a occupé une place tellement considérable qu'on se demande ce que serait devenue la Révolution s'il n'était pas mort quelques mois avant la chute de Louis XVI. Lui qui souhaitait la fin de l'absolutisme et des privilèges de la noblesse à laquelle il appartenait pourtant, avait tout fait pour sauver malgré tout la monarchie en essayant en vain de lui faire accepter la Révolution. Il y gagnera beaucoup d'argent et une réputation détestable qui fera de lui, après sa mort, le premier homme à entrer au Panthéon et le premier à en être chassé sous la Terreur. Il fallait oublier celui qui, le 23 juin 1789, avait été le premier à oser défier l'ancien régime. Ce jour-là, refusant d'obéir à Louis XVI qui tentait de disperser la toute nouvelle Assemblée nationale, Mirabeau entrait dans l'histoire en lançant au maître des cérémonies du roi une des formules les plus belles et les plus célèbres de la Révolution.
Vous avez tous entendu le roi vous donner l'ordre de vous disperser.
Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne.
Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Bravo, 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 bravo.
Michel Chailloux, bonjour.
Bonjour.
Alors tout le monde connaît cette célèbre apostrophe de Mirabeau. Elle a fait de lui, alors qu'il avait 40 ans déjà, un des personnages clés de la Révolution. En revanche, on connaît beaucoup moins la vie de Mirabeau avant la Révolution, sa jeunesse, que l'on découvre, Michel Chailloux, dans un livre, dans votre dernier livre, qui s'appelle Le Matamore ébouriffé. Alors c'est pas vraiment une biographie, c'est même pas, je dirais, un roman historique, c'est une espèce d'enquête que vous imaginez en fait en 1796 après la mort de Mirabeau. Pourquoi avez-vous procédé de cette manière pour découvrir à travers cette enquête et votre livre la jeunesse de Mirabeau?
C'est-à-dire que Mirabeau m'habite depuis une trentaine d'années à peu près, et depuis très longtemps je voulais écrire, au début je voulais écrire une biographie, puis brusquement c'est devenu un roman. Je ne sais pas pourquoi. À la troisième page, brusquement, un personnage a surgi. On ne sait pas pourquoi les personnages surgissent. C'est comme si le roman se mettait debout et vous interpellait. Et ce personnage, dont on ne sait rien, et le mystère de ses questions s'ajoute au mystère du livre, s'installe dans une auberge au Bignon, le village natal de Mirabeau, dans le Gâtinais.
L'enquêteur, donc.
L'enquêteur, donc. Et là, il fait parler les gens qui l'ont connu, parce que c'est au printemps 1796, 5 ans après la mort de Mirabeau. Il meurt le 2 avril 1791. Et là, il interroge tous les gens qui l'ont connu, bébé, enfant, etc. Parce qu'il faut savoir que Mirabeau est né le 9 mars 1749.
Oui, 1749.
1749. Ouais. Et ensuite, il a été confié à la nourrice du village, une forgeronne. Et en fait, Mirabeau, il est à la fois le fils du château et le fils de la forge. Et peut-être que l'éloquence dont on parle tant chez lui, c'est le feu de ses paroles. Il a peut-être acquis en regardant manœuvrer l'enclume.
Et son visage aussi, Michel Chailloux. Mirabeau, c'est une trogne, j'allais dire, au début. Et dès la naissance, il naît, vous le rappelez, avec déjà 2 dents, avec une tignasse, et tellement laid, un visage tellement difforme que son père écrit à l'oncle de Mirabeau, ton neveu est laid comme Satan. Son père l'a détesté dès le premier jour.
Oui, ça c'est un mystère, mais il faut savoir quand même que dans les biographies, on vous dit il est né le 9 mars 1749, ensuite il a eu la petite vérole à 3 ans, etc. Mais comment était son visage avant la petite vérole? Personne n'en dit rien. Il était peut-être très beau, parce que les Mirabeau avaient la réputation d'être très beaux, et si la petite vérole l'a défiguré, la parole a comblé les trous, la parole éloquente a comblé les trous de son visage. Au fond, son âme n'était pas trouvée.
Alors, en tout cas, ça l'a pas réconcilié avec son père. Son père, je disais, le détestait. C'est quand même extraordinaire de voir un père qui, ensuite, pendant toute la jeunesse de Mirabeau, n'a pas cessé de le faire envoyer en prison. Il a fait toutes les prisons possibles et imaginables du royaume, le château d'If, Vincennes, etc. Alors, il faut dire que c'était un personnage, le jeune Mirabeau, passablement débauché, couvert de dettes aussi. Le père n'appréciait pas.
Non, mais c'est peut-être presque plus complexe, mais couvert de dettes parce que le père ne lui donnait pas d'argent. Débauché, non. Il a cette réputation, mais c'était un homme qui aimait, qui avait de l'appétit et qui courait. Au fond, il est né déjà presque formé. Il avait déjà des choses en plus que les autres hommes n'avaient pas, dedans de la tignasse. C'est comme s'il avait commencé sa course. Ouais. Quand il était enfant, il courait plus vite que tous les garnements du village. Déjà, il s'essayait à l'éloquence au milieu des prés du Gâtinais. Ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'il avait l'accent du Gâtinais. Chateaubriand le dit dans les Mémoires d'Outre-Tombe. C'est-à-dire une parole un peu embrumée, faite de miel et de brume, comme si les deux substances pouvaient s'accorder dans sa voix. Par exemple, il chantait admirablement. D'ailleurs, dans cette famille, tout le monde chantait. Lui, il avait une voix de ténor. héroïque. J'ai essayé de l'entendre. D'ailleurs, dans ce livre, j'ai essayé de faire réentendre l'intonation de tous ces paysans du Gâtinais dans ce petit village perdu du Bignon entre Nemours et Montargis.
On retrouve un peu hein, les accents de l'époque. Vous parlez comme à l'époque. Enfin, vous écrivez comme on parlait à l'époque, Michel Chailloux. Alors, revenons quand même aux coureurs de filles, parce qu'ils couraient aussi plus vite que les filles. Là, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu une seule qu'il a aimée, hein, qui était, je crois, manque de peau, la mariée, hein, la femme du président de la Cour des comptes de Dole, avec laquelle il s'enfuit. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles, pour adultère, il va aller en prison.
Oui, alors, il faut savoir une chose, c'est que les prisons, d'une part, de Mirabeau, le père pourrait vous rétorquer qu'il le mettait en prison pour qu'il échappe à ses créanciers, il le mettait sous la main du roi, il disait. Alors, les prisons, on peut les dire successivement, avant d'arriver à Sophie de Monnier, qui arrive, justement, au terme d'une de ces prisons. La première, d'abord, il est envoyé comme sous-lieutenant au Royal Berry à Saintes. Là, il tombe amoureux de la fille d'un archer de la ville à qui il promet le mariage. Il dépense généreusement en faisant des dettes. Mais son colonel Saint-Lambert est aussi amoureux de la même fille, ce qui explique beaucoup de choses. Ensuite, à la suite de dettes, il va être envoyé à l'île de Ré. À l'île de Ré, il s'est gouverné par un bailli, le bailli d'Olan. Il séduit tellement le gouverneur de la prison, de la citadelle à Saint-Martin-en-Ré, qu'on lui accorde un bateau. Il peut faire de la navigation à voile, navigation de plaisance, tout en étant prisonnier. Ensuite, il va à La Rochelle, où il contacte encore des dettes. Il va aller ensuite à la guerre de Corse, ensuite au château d'If. Là, au château d'If, il va tomber amoureux, mais c'était la seule femme. Il est emprisonné au château d'If de la cantinière, Madame Mouret. Les lettres, on lui interdisait de communiquer avec l'extérieur, mais ses gardiens, séduits par lui, mettaient les lettres dans leur guette, et c'était des invalides, une garnison d'invalides, il y arrivait. Et ensuite, il va au fort de Joux. Au fort de Joux, en effet, à Pontarlier, il avait le libre accès à la ville de Pontarlier. Et là, il connaît Sophie de Monnier. Mais il faut savoir que Sophie de Monnier était une jeune femme qui était mariée avec un homme qui avait 30 ans de plus qu'elle. Mmh. C'était un vieillard, le président de la Cour des comptes de Dole. Et donc, entre le tric-trac, les jeux de cartes, etc., et l'absence d'actes amoureux au lit, bien sûr, une femme tombe sur cet athlète de l'amour qui était Mirabeau, et bien sûr, elle lui tombe dans les bras.
Et lui va tomber en prison, hein, donc encore une fois. Alors, la prison aura du bon quand même, Michel Chailloux. Elle va faire de Mirabeau un écrivain. Il va écrire des essais philosophiques, beaucoup de textes érotiques aussi, parce que son tempérament, il l'exprime avec sa plume également.
Mais il faut savoir qu'un homme qui est emprisonné, qui manque de femme, en crée de papier. Et donc, c'est ce qui explique la littérature érotique, qui, moi, m'ennuie un peu. C'est pas ses traits de génie. Hein. Il a écrit des œuvres érotiques, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important chez lui, c'est que il faut savoir qu'il a un art admirable pour griffonner. Parce que tout petit, il griffonne. On disait que lorsqu'il allait au cabinet, par exemple, sur un papier maculé de ce que vous pensez, il écrivait déjà des choses, il lisait et il écrivait des choses. C'est une sorte de griffon qui griffonne tout le temps. Il n'a pas attendu d'être l'orateur éloquent qu'il va devenir pour être aussi passionné d'écriture et de mots. Et on pourrait presque dire qu'il est qu'une sorte de ruche verbale.
En tout cas, ce qu'il a griffonné, eh bien, Stéphanie Duncan l'a lu, vous propose d'écouter quelques extraits de textes de Mirabeau, la revue de texte. Stéphanie Duncan.
Oui, pendant les 3 ans qu'il passe au donjon de Vincennes, Mirabeau écrit donc, il écrit sur les 2 choses qui comptent peut-être le plus dans sa vie, l'amour et la philosophie politique. Il écrit donc des livres érotiques, notamment son Erotica Biblion, ouvrage à la fois libertin et philosophique. Crois-tu, écrit-il à Sophie, que l'on pourrait faire dans la Bible et l'Antiquité des recherches sur l'onanisme, la tribaderie, etc. Enfin, sur les matières les plus scabreuses qu'aient traitées les casuistes, et rendre tout cela lisible, même au collet le plus monté et parsemé d'idées assez philosophiques. Alors, Mirabeau écrit aussi de magnifiques lettres d'amour à Sophie. Tu sais, mon ami, la plupart de mes frivoles exploits dans la carrière du plaisir. Mais ces lauriers que je croyais avoir cueillis si glorieusement, insensé que j'étais, comme l'amour les a flétris, que de guirlandes de fleurs il a substitué à quelques brins d'herbe. Dans quel délire ne m'as-tu pas plongé? Quelles incroyables victoires n'ai-je pas remportées sur ton sein? Ô Sophie, belle Sophie, que de volupté je trouve à y penser. Alors, parmi les lettres écrites au donjon de Vincennes, il y a aussi celle de l'homme révolté contre l'arbitraire des lettres de cachet, puisqu'il a été enfermé suite à une lettre de cachet. Qui, dit-il, pourrait dévoiler les injustices horribles dont cette jurisprudence, toujours violente et si commode, est le voile, ferait rougir les distributeurs de coups d'autorité et frémir tous les citoyens? Mirabeau réclame le simple droit d'être jugé. Je suis citoyen, dit-il, je suis homme, on me doit donc entendre. Mais Mirabeau, il va plus loin. Son audace consiste, 12 ans avant la Révolution, à s'attaquer au fondement même de l'absolutisme royal. On a oublié, dit-il, que le droit de la souveraineté résidant uniquement et inaliénablement dans le peuple, le souverain n'était et ne pouvait être que le premier magistrat de ce peuple. Et pour Mirabeau, la religion a elle aussi sa part de responsabilité. Les deux autorités, dit-il, se sont aidées réciproquement à asservir les corps et les esprits. Elles ont exigé l'obéissance implicite et partagé le droit divin de la tyrannie. Au droit divin, Mirabeau, lui, oppose le droit naturel. Le principe de toute législation est fondé, dit-il, sur la loi de nature, les lumières de la raison, le vœu et le consentement général. Et Mirabeau en vient même dans ses lettres à formuler l'idée d'une assemblée élue. Dans les États, dit-il, où les citoyens ne participent point au pouvoir de la législation par la délégation d'un corps de représentants librement élu par la plus grande partie de la nation, il n'y a point, il ne saurait y avoir de liberté publique.
Dans ses textes, Michel Chaillou, 10 ans avant la chute de la prise de la Bastille, il annonce la révolution et ce qu'il fera, au fond, comme révolutionnaire.
Oui, mais enfin, il annonce la révolution, mais l'idée traînait, enfin, ouais. Dire, sauf parmi les ci-devant qui souvent ne voyaient pas grand-chose venir, qui vivaient comme dans un songe. Mais ce qu'il faut savoir quand même chez Mirabeau, c'est ce qui a fait son succès, c'est une sorte de tête hurlée, de la révolution à ses débuts. Mais pourquoi? Parce qu'il avait une espèce de présence animale extraordinaire dans ses discours. Par exemple, je vais vous citer une anecdote. Un voyageur suisse, voyageant à travers la France, arrive à un relais de poste pas loin de Paris, et il entend le roulier au moment du changement de chevaux. Vous mettrez Mirabeau au milieu. Il se rapproche, c'était en 1794. Mmh. Pourquoi vous appelez le cheval Mirabeau? Eh bien, tout simplement parce qu'il est plus fort que les autres. D'autre part, il y a des poissardes qui parlent de Mirabeau en disant « ma petite mère Mirabeau ». C'est-à-dire qu'il a une espèce de pouvoir d'évocation et un charme extraordinaire. C'est peut-être ça qui explique sa puissance plus que les idées.
Alors, sa puissance qui va s'exprimer de manière nationale, si je puis dire, pendant la Révolution. Il est élu, donc, député du tiers-état et non pas de la noblesse, alors qu'il est noble.
Mais il n'aurait pas pu être élu, excusez-moi de vous interrompre, député de la noblesse pour la simple raison qu'il était rejeté.
Rejeté par sa caste.
Mais il ne faut pas oublier non plus quand même que dans son privé, il se faisait appeler Monsieur le Comte. Mmh. C'est un mélange très curieux, Mirabeau.
En tout cas, il est là, évidemment, le jour de l'ouverture des États généraux à Versailles par Louis XVI, le 4 mai 1789.
Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin.
Pour combien de temps pensez-vous que la classe dirigeante puisse s'accrocher à ses privilèges?
Le clergé et les vôtres, quel que soit leur nombre, voteront toujours contre les représentants du tiers-état.
Les miens?
Oui, les nobles, monsieur de Mirabeau. C'est 2 contre 1, et ce sera toujours pareil.
Je suis un élu du tiers-état.
Et membre donc des états généraux de 1789. Il y a une chose quand même qui est extraordinaire, Michel Chaillou. D'abord, ce basculement. Il y a 2 Mirabeau, disait un historien. Il y a celui d'avant et celui d'après 89. Mais au fond, en 1789, en mai 1789, le 4 mai 1789, on le connaît un peu, certes, mais pas beaucoup. Et brusquement, en quelques jours, il va devenir la figure de proue de la Révolution, la voix de la Révolution même, disait Michelet. Comment ça se fait?
Eh bien, écoutez, d'abord, avant la Révolution, il faut savoir que ces écarts amoureux étaient connus de beaucoup de gens et que, en fait, en abordant la Révolution, il n'a changé simplement que d'amante. Mmh. Et qu'en fait, c'est le même amour qui l'a transporté ailleurs. D'autre part, ce qu'il faut savoir, donc, sa maîtresse était devenue la Révolution. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la Révolution, quand il montait à la tribune, par exemple, je me suis beaucoup penché sur ce problème, il trébuchait au début. Puis brusquement, il était comme visité de l'intérieur, visité par les dieux, et il commençait à enfiévrer complètement l'assistance. D'autre part, ses discours n'étaient pas de lui. Ils étaient préparés par tout un atelier de collaborateurs, oui, des jeunes voix, qui étaient autour de lui. Et on a même dit, les ennemis disaient qu'il n'est que le geste et le comédien de ce qu'il dit. Mais justement, à partir de textes qui étaient, par exemple, sur les finances, c'était Clavière qui lui préparait. Bon, eh bien, pareil, qui était un spécialiste. Mais en même temps, il trouvait les mots, l'expression, la gestuelle. Il avait cette espèce de voix sourde, ténorisante, qui enfiévrait complètement les syllabes. Et puis, il était capable de, comment dirais-je, de prononcer un murmure sans en perdre une seule note. C'est cette espèce de musique interne de la pensée, de l'âme, qui fait de Mirabeau un des plus grands orateurs de la Révolution. Mais cette éloquence, on ne sait pas l'expliquer. C'est la visite des
des dieux.
Et puis aussi un sens de l'opportunité. On rappelait cette fameuse formule, hein, vous y allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple, nous sortirons par la force des baïonnettes. Ça se passe à un moment précis. Louis XVI, pour affaiblir, bien entendu, les députés du tiers, d'abord demande à ce qu'ils travaillent séparément. Il refuse cette assemblée nationale qui se crée contre son gré, qui réunit quelques députés de la noblesse, quelques députés du clergé, pratiquement tout le tiers état, dont Mirabeau. Et le marquis de Dobrézé demande justement que cette assemblée se sépare. Et il y a ce mot extraordinaire où l'assemblée, au fond, s'en va. La révolution est terminée avant même d'avoir commencé. Et puis c'est Mirabeau qui a cette phrase qui l'a fait rester sur place. C'est vraiment parce que plus important, au fond, que la prise de la Bastille, quand Camille Desmoulins a lancé les Parisiens sur la Bastille.
Oui, on dit qu'il était un peu à l'origine d'ailleurs de la prise de la Bastille aussi, mais ça serait trop long à expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mirabeau a un génie politique, c'est sûr, un sens, il sait lire l'avenir dans la paume de la main tendue des misérables qui ont fait la Révolution. Et en même temps, il partage complètement leurs idéaux, et en même temps, il reste aristocrate dans l'âme. Il disait, il faut s'abandonner au torrent pour le gouverner à la fin.
Oui.
Hein, c'est, faut savoir ça. Et d'autre part, c'est un personnage, c'est ça qu'on ne voit pas très bien. C'est cette espèce d'animalité de la parole qu'il avait chez lui, dont je parlais tout à l'heure, et qui faisait qu'il séduisait tout le monde, y compris Camille Desmoulins. À un moment, Camille Desmoulins assiste à une séance de l'Assemblée constituante, et là, brusquement, il s'oppose à Mirabeau. Il sort sur la terrasse des Feuillants par une petite porte. Il rencontre Mirabeau. Mirabeau lui passe le bras sous le sien, et brusquement il est complètement conquis à nouveau par Mirabeau. D'ailleurs Mirabeau disait, Camille Desmoulins c'est ma femme.
Alors il n'y a pas que la parole, hein, il approuve toutes les premières décisions de la Révolution, la déclaration des droits de l'homme, il y a la réquisition des biens du clergé, il y a l'abolition des privilèges, c'est-à-dire des privilèges de sa caste, de la noblesse. Est-ce qu'au fond, on a un peu le sentiment, Michel Chailloux, qu'il veut régler ses comptes avec une noblesse qui l'a rejetée?
Je pense pas qu'il soit capable de régler ses comptes. C'est quelqu'un qui sera toujours endetté parce qu'il est trop généreux pour cela. Et la générosité refuse ce type de calcul. Non, c'est un homme d'une bonté large comme la mer, d'une générosité sans exemple, qui dépense sans compter parce que on peut pas compter les dépenses, et qui se dépense généreusement. Il sent la main tendue de la Révolution. Il n'aurait pas voté la mort de Louis XVI s'il n'était pas mort auparavant, ça c'est sûr. Il aurait sans doute été guillotiné à la Révolution. C'était un homme qui était à la fois aristocrate dans son privé, dans la touffeur des draps, et qui dans la rue était tiers-état.
Et en même temps, cette Révolution, on peut dire que d'une certaine manière, c'est lui, en tout cas, en grande partie lui qui la déclenche. Il est aussi le premier, dès la fin de l'année 89, à vouloir l'arrêter, à se méfier au fond des pouvoirs de cette assemblée qu'il craint, et même à penser à une monarchie constitutionnelle. Il n'est pas un républicain, Mirabeau. Et on écoute justement un autre extrait du film de Robert Henrico, La Révolution française, un déjeuner au cours duquel Mirabeau expose ses idées à Camille Desmoulins.
Oui, gouverner, c'est une chose sérieuse, mon cher ami. Pour y parvenir, il faut trouver un véritable équilibre de pouvoir entre l'exécutif et le législatif.
C'est pour ça que vous défendez le droit de veto d'un seul homme ?
Que ce soit le roi, un président ou autre chose, cela est sans importance. Une assemblée toute puissante et sans frein nous conduira tout droit au gouffre.
Pourquoi ?
Mais parce que vous y concentrez tous les pouvoirs. Ce qui est important, c'est la souveraineté. Elle doit être partagée entre le roi et l'Assemblée.
Au fond, ce que veut Mirabeau, Michel Chailloux, c'est une monarchie parlementaire, une monarchie à l'anglaise.
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Il a toujours été ainsi. D'ailleurs, quand il a rencontré, à Saint-Cloud, la reine et le roi, il n'a pas dit autre chose. Au fond, il était tout à fait pour... il essayait d'amener Louis XVI à une idée, à accepter certains éléments de la Révolution et à garder l'essentiel de son pouvoir.
On y viendra, mais on peut se demander aussi s'il ne pressentait pas la terreur, ou même au-delà, d'ailleurs, s'il ne pressentait pas un général qui arrêterait, lui, la Révolution pour établir une autre forme de monarchie. Il détestait par exemple Lafayette, il se méfiait beaucoup de Lafayette.
Oui, il avait un mot très dur, mais alors il y a beaucoup de raisons. D'abord parce que Lafayette était très beau et avait un beau cheval blanc, et d'autre part il l'appelait le Gilles César de Salon. Il n'a jamais aimé Lafayette, il disait que c'était une intelligence médiocre, mais une intelligence médiocre qui s'est trouvée toujours au bon moment dans les bonnes situations. Mirabeau, c'est autre chose, c'est vrai que c'était une envergure sombre et magnifique que n'a pas Lafayette, de mon point de vue. Il n'a pas de cheval blanc, lui, son cheval est noir et haletant Il court. Depuis sa naissance, il court à travers ses amours, ses sentiments, ses amitiés. C'est une course. À la fin, quand il va mourir, le peuple parisien se presse à sa porte. Il ira sonce les funérailles d'Achille. Il se prend pour Achille. C'est-à-dire quelqu'un qui court, qui a de l'impétuosité, qui a les mots avant la pensée. Et la pensée essaye de les rattraper en vain. Ces mots sont toujours devant. C'est une sorte de brouhaha. C'est la révolution en marche. C'est un sang qui gesticule. D'abord, il avait du sang corse. Mirabeau, il est d'origine florentine. Dit-on, allié aux Médicis. Peut-être qu'il c'est faux. Tout cela, peut-être qu'il a des origines roturières et qu'il descend d'un riche maître d'école.
Alors, il voulait peut-être aussi être ministre, plus prosaïquement.
Il a été nommé ambassadeur à Constantinople, au Grand Sérail, il aurait fait des ravages.
En tout cas, il ne sera pas ministre, il sera en revanche conseiller occulte, vous le disiez Michel Chailloux, de la famille royale dont il se rapproche, rencontrant donc effectivement discrètement la reine Marie-Antoinette au château de Saint-Cloud en 1790.
Monsieur de Mirabeau, que voulez-vous ?
Que votre majesté me fasse confiance.
À vous, l'un des principaux artisans de nos difficultés.
Est-ce que vous avez lu les lettres secrètes que j'adresse au roi?
Je les ai lues.
Et vous n'êtes pas encore convaincu de mon désir de sauver la monarchie?
Comment croire à votre sincérité?
Dénoncez ma présence ici ce soir, madame.
Vous trahissez des deux côtés. C'est superbe. Selon vous, que faut-il faire?
Accepter la Constitution.
C'est-à-dire notre perte.
Votre sauvegarde.
Toujours vos paradoxes.
Madame, ayez confiance dans votre peuple. Jetez-vous dans ses bras. Il vous ouvrira son cœur.
En vous écoutant, on finirait par admettre l'impossible.
C'est vrai, Michel Chailloux, que vouloir rapprocher ce qui était l'objectif de Mirabeau, le roi, et par conséquent la reine de la Révolution, et même les mettre à la tête de la Révolution, les séparer des ultras de l'aristocratie qui voulaient un retour en arrière, ça paraissait impossible. On vient d'écouter un extrait du film de Robert Enrico. Vous me disiez que les voix n'étaient certainement pas celles, c'est évidemment des comédiens. Oui. Comment est-ce qu'on pouvait savoir quelle était la voix de Mirabeau?
Bien, la voix de Mirabeau, d'ailleurs, Chateaubriand en parle dans Les Mémoires de Retombe, c'était un parler du Gâtinais, c'est-à-dire un parler un peu embrumé, un peu patoisant, sans patois. C'est-à-dire que c'était une voix qui sortait du peuple tout en étant un aristocrate. Et d'ailleurs, quand Marie-Antoinette va le rencontrer à Saint-Cloud, il y aura une telle impudence sur le visage de Mirabeau, une telle liberté d'allure et de propos, qu'elle va reculer d'effroi et qu'elle va se mettre au lit une fois qu'il sera parti. Elle en était presque malade d'avoir rencontré un homme libre.
Alors, c'était la voix de Peter Ustinov, dans le film de Robert Enrico. Alors, donc, il essaye de rapprocher la famille royale. Cela dit, on ne savait pas à l'époque, d'abord, que ces lettres existaient, qu'il y avait ces démarches qui étaient secrètes. Ces lettres, elles étaient dans la fameuse armoire de fer qu'on va découvrir plus tard
avec d'autres lettres,
accablé Louis XVI, avec d'autres lettres, et on ne savait pas non plus qu'il était payé pour ça. Est-ce qu'il est traître? Est-ce qu'il est corrompu?
Non, il n'est ni traître ni corrompu. Il est payé parce qu'il donne des conseils, puisqu'il croit à une monarchie constitutionnelle. Il essaye de conseiller le roi pour que le roi prenne de la Révolution ce qui est bon pour lui et rejette le reste. Donc, il est tout à fait fidèle à lui-même. Il n'est pas du tout traître. Faut pas oublier que lorsque par
corrompu
exemple,
quand même. C'est Michelet corrompu, qui disait non. Trahison, non. Corruption, oui.
Non, pas corruption. Moi, je ne crois pas du tout. Innocence du cœur.
Enfin, en tout cas, la famille royale a effacé ses ardoises et ses dettes. On payait 6000 livres par an, c'était pas mal.
Oui, mais quand il s'est marié, par exemple, à Aix, eh bien, vous savez qu'il y avait une coutume provençale qui voulait que ce soit le marié qui paye tous les cadeaux de la noce. Et son père ne lui donnait rien. Il y avait que son oncle, le bailli, dont on n'a pas parlé, qui lui filait qu'un peu de temps en temps quelque argent. Et c'est l'innocence du cœur, Mirabeau. Il a toujours été fidèle à lui-même et fidèle à une certaine idée de la France.
Il meurt en 1791, Michel Chailloux, je crois que c'était en avril.
Le 2 avril
1791, c'est-à-dire bien avant que la Révolution ne débouche sur la République. Est-ce qu'on peut dire ce qui serait passé s'il n'était pas mort avant? Vous dites qu'il aurait été guillotiné.
Je pense, mais d'ailleurs, n'oubliez pas qu'on lui va lui faire des funérailles nationales. Et le peuple en entier.
Après sa mort, oui. Il est le premier à être entré au Panthéon.
Oui,
on a créé le Panthéon pour lui, d'ailleurs.
Ben absolument, oui. Et d'autre part, il faut savoir quand même qu'il y a une sorte d'élan de tout le peuple français pour Mirabeau. Alors, qu'est-ce qu'il avait donc de si extraordinaire, Mirabeau? C'est justement ça qui est très intéressant à savoir. On avait l'impression que lorsqu'il parlait, c'était son âme qui parlait. Lorsqu'il chantait, c'était aussi son âme qui parlait. Parler de dette devant une âme. Les âmes n'ont pas de dette.
Oui, cela dit, il y a peut-être eu un grand une grande vénération pour Mirabeau quand il est mort. Cela dit, on va lui retirer. Il est le premier locataire du Panthéon. Il sera le premier à en être chassé. On va même le remplacer par Marat, qui lui-même, d'ailleurs, sera chassé du Panthéon.
Mais Marat avait quelque chose d'exigu dans le visage. Quand on voyait le visage de Mirabeau, ses yeux étaient l'enfance de son visage, disent ses successives maîtresses. Il avait une liberté physique. Il avait une espèce d'impudence qui faisait que lorsque les gens le voyaient pour la première fois, on reculait. Et puis dès qu'il commençait à parler, on se rapprochait. Il avait cette espèce d'étreinte personnel qu'il avait avec la réalité. Il embrassait sans cesse, muettement, le monde. Et c'est du bruit de ses baisers qu'est née la Révolution.
C'est extraordinaire ce que vous dites. On a vraiment l'impression que vous vivez avec lui depuis 30 ans, m'avez-vous dit.
Oui,
hein,
c'est... oui. Parce qu'il a une espèce de liberté dans l'âme. Une liberté, un laconisme, un enthousiasme. C'est pour ça que je le compare à Achille. Et comment peut-on rattraper Achille? J'ai écrit tout ce roman pour essayer de le rattraper, bien sûr en vain, mais j'ai essayé de profiter de son sillage. Et depuis très longtemps, Mirabeau, pour moi, c'est mon art poétique. C'est-à-dire quelqu'un qui essaye de transformer la réalité par l'héroïsme de ses sentiments et par une écoute perpétuelle des autres. Car on ne dit pas ça. Il écoutait beaucoup. Dans son enfance, il écoutait beaucoup. Il était silencieux quand il était bébé dans la forge. Il regardait le feu qui danse et il a attrapé quelques étincelles de ce feu mêlées au cuir des chevaux et il en a fait son éloquence première, sa parole, qui a enthousiasmé les débuts de la Révolution.
Merci Michel Chaillou de nous avoir parlé tant de chaleur de Mirabeau, une chaleur que l'on retrouve aussi dans votre livre, donc Le Matamore ébouriffé, un roman donc édité chez Fayard, où il est question surtout du Mirabeau de la jeunesse. Alors, vous avez pu entendre des extraits du film La Révolution française de Robert Henrico.